J'ai glissé, chef.
Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile.
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Tu me parles le cœur.
Si je connaissais le con qui a fait sauter le pont.
Ce soir, je vais conclure.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
C'est pas son jour, dites-donc.
C'est jamais son jour.
Il n'y a pas d'hélice, c'est l'as.
C'est là qu'est l'os.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Et voici votre rendez-vous cinéma, comme chaque semaine, sur Radio Grand Air, la radio qui aime le cinéma, la radio qui aime aller au cinéma, et avec, bien sûr, le patron des lieux, hein, c'est Pascal pour l'émission En Tract. Bonjour Pascal.
Bonjour Christophe. Alors, je ne suis pas le patron des lieux, pas tout à fait.
Ça viendra.
Oh, écoute, ça viendra à mon âge, je ne sais pas ce que tu peux espérer de plus. Mais bon, ça va, je ne me plains pas.
On va dire le taulier.
Le taulier, oui, ça me ressemble un peu plus. Eh bien, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Grand Air. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce numéro 84 d'Entracte.
Eh oui, 84 aujourd'hui. Et cette semaine, en ce mois de novembre, nous sommes impatients de voir un petit peu ce qui va se passer sur les écrans de la Brèche à Sainte-Foy-la-Grande, Pascal.
Alors, ce qui va se passer, beaucoup de choses. J'ai sélectionné plusieurs films, mais déjà, on sort déjà des vacances de la Toussaint. Il y a un papier qui est tombé dans Sud-Ouest avec les chiffres, on va dire, des entrées cinéma France de cette année qui sont supérieures à ceux de l'an dernier. Donc, les cinémas se portent très bien en France. Et la Brèche se porte très bien aussi. On a fait quand même une belle augmentation par rapport aussi à l'an dernier. On a fait des très très bons chiffres. Donc les gens étaient au rendez-vous. Je veux dire, merci la météo. Je crois que ça y a beaucoup contribué.
Ça joue aussi, effectivement.
Mais il y a aussi les films pour enfants qui ont très bien marché. Je suis très content que le film de Miyazaki ait eu un très très bon départ. On l'a eu en sortie nationale. Voilà, on a fait de très très bons résultats dessus. Le Scorchese a bien marché aussi. Enfin voilà, toi tu l'as vu, hein, tu as aimé.
Absolument.
Tu as bien aimé.
Absolument.
On en a parlé tout à l'heure.
3h26 de film et on est vraiment pris dans ce magnifique film qui nous fait remonter le temps effectivement et qui nous apprend plein de choses en tout cas.
Oui, la mise en scène était super. Moi j'ai beaucoup aimé l'immersion dans l'époque. Dans l'époque et le décor, tout ça, les costumes, c'était vraiment 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 super quoi. Et donc voilà, donc on va continuer, hein, y a pas de raison. Donc, cette semaine, je vais vous présenter plusieurs films, dont un film en sortie nationale, donc c'est le The Marvels, qui revient là très fort. Avec,
effectivement, on va voir des fans, hein, on le sait, il y a des fans, il y a une communauté Marvels.
Absolument. Donc de Nia DaCosta. On va parler aussi d'un film qui va faire du bruit aussi, je pense. Un biopic très intéressant de Frédéric Tellier, L'Abbé Pierre. Quel bon sujet!
Absolument, connaître l'abbé Pierre.
Ouais, un grand personnage.
Je crois qu'on ne le connaît peut-être pas assez bien.
Sûrement pas, il a une vie bien remplie. On va parler aussi d'un film tiré d'un roman, un film de Vanessa Philo, donc Le Consentement. On va revenir sur l'affaire Mazneff, Gabriel Mazneff, ce célèbre écrivain qui aimait les petits-enfants. On va parler aussi du dernier film de Tran Anh Hung, que j'aime beaucoup. C'est un réalisateur que j'apprécie énormément, notamment pour ses films dont Cyclo, mais on va en revenir tout à l'heure. On va parler de gastronomie.
Avec Cornillac.
Non.
Ah non, c'est pas ça.
Non, du tout. C'est La Passion de Dodin Bouffant.
Je confonds avec notre film. Ouais.
On va parler aussi des soirées qu'il y aura à La Brèche, donc, notamment autour de Charlot. On va passer des films qui s'appellent Charlot s'amuse, dans le cadre.
D'accord, c'est version originale
voilà,
en fait.
C'est du cinéma muet. Hein.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Et on va parler aussi d'un documentaire donc de Brice Gravel, qui nous parle d'un drôle de PDG, le PDG de Jiffy. Des idées de génie, le documentaire.
Bien, ouais.
Non mais moi j'aime beaucoup, parce que non seulement c'est le slogan de la société, mais c'est aussi un drôle de personnage, le patron de Jiffy. Et complètement atypique. Et dans le cadre de la sortie L'Abbé Pierre, moi, j'ai pas choisi de d'acteur, j'ai pas choisi de réalisateur. On va faire une petite page d'histoire. Je vous ai résumé dans les grandes lignes la vie de l'Abbé Pierre, parce que je trouve que c'est un sujet quand même très intéressant et assez méconnu. On connaît mal les premières années de l'Abbé Pierre, d'où il vient, comment il a grandi, dans quelle famille il a grandi et le pourquoi il est devenu, on va dire, abbé. Voilà, donc on va faire un petit coup de projecteur sur ce grand homme de l'histoire du XXe siècle.
Alors on va commencer par les Marvel, hein. C'est bien sûr la suite peut-être, une histoire qu'on va redécouvrir sur les écrans, parce qu'on sait qu'il y a une communauté Marvel.
Ah oui, oui. Alors là, ils ne vont pas être déçus. Alors ça, c'est le 33e
film. Oui, d'accord, je n'avais pas noté jusque-là. Oui.
Donc c'est un film américain d'une heure 45, action, aventure, fantastique, science-fiction, de Nia DaCosta. Alors elle en est à son 7e film. Hein. En 2021, elle a réalisé Candyman.
Ah oui, tu me rappelles. Absolument, oui. Ouais. Mmh.
Au niveau des acteurs, on va retrouver Brice Larson, Iman Vellani, Tijona Paris, Samuel Lee Jackson, Zoe Ashton, Siwo John Park, Zenodia Schroff et Mohan Kapoor. Donc c'est l'histoire de Carol Danvers, alias Captain Marvel, qui doit faire face aux conséquences imprévues de sa victoire contre les crises. Des effets inattendus l'obligent désormais à assumer le fardeau d'un univers déstabilisé. Au cours d'une mission qui la propulse au sein d'un étrange vortex étroitement lié aux actions d'une révolutionnaire Kree, ses pouvoirs se mêlent à ceux de Kamala Khan, alias Miss Marvel, sa super fan de Jersey City, et à ceux de sa nièce, la capitaine Monica Rambeau, désormais astronaute. D'abord chaotique, ce trio improbable se retrouve bientôt obligé de faire équipe et d'apprendre à travailler de concert pour sauver l'univers. Un seul nom pour cela, The Marvels.
J'aime bien la voix.
Alors ça va être un trio de femmes. Hein.
Oui, très bien.
Voilà. Donc le Marvel, c'est le 33e film de l'univers cinématographique Marvel et le 3e de la phase 5 après Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, et les Gardiens de la Galaxie 3. Il fait par ailleurs suite à Captain Marvel sorti en 2019 et s'inscrit dans le prolongement des séries WandaVision 2021 et Miss Marvel en 2022. De quoi s'y perdre quand tu n'y connais rien, comme moi, je peux te dire.
Oui, c'est un petit peu technique. Hein.
Oui, là, faut être vraiment super fan. Quoi. Donc, pour Nia DaCosta, le ton du film devrait être à la fois extravagant et distrayant parce que l'action y est prépondérante. Et la réalisatrice précise, les trois héroïnes permutent leur place et leur pouvoir. Ça peut paraître chaotique et désordonné, mais je tenais vraiment à ce que cela se reflète dans leurs traits distinctifs. Ainsi, l'humour de Captain Marvel est différent de celui de Miss Marvel, car la première est une femme de 63 ans dans un corps de 30 ans, tandis que la seconde est une adolescente de 16 ans qui se retrouve à passer du temps aux côtés de son idole. Je voulais vraiment m'assurer que toutes ces notions soient ressenties par le spectateur, capter le caractère chaleureux de tous les personnages et la relation entre ces trois héroïnes qui apprennent à devenir une famille, m'importait vraiment. La famille est un thème important du film. Carol et Monica se retrouvent après s'être perdues de vue pendant des années. Le clan Khan représente à leurs yeux une sorte d'idéal après la mort de Maria. La notion de famille et la façon dont ces trois personnages l'appréhendent pour mieux se découvrir est primordiale, nous dit-elle. Donc lorsque Captain Marvel donne involontairement le coup d'envoi de cette nouvelle épopée spatiale, l'éternel solitaire se retrouve littéralement entremêlé à deux nouveaux visages, Kamala Khan, l'adolescente de Jersey City, et la scientifique astronaute Monica Rambeau, sa nièce, avec qui elle avait coupé les ponts, fille de la défunte Maria Rambeau. Tu me suis toujours ?
Non, j'ai décroché, mon cher Pascal.
Ça, c'est pour les fans. Réalisant que leurs pouvoirs sont liés, Carol décide de faire équipe avec Monica et Kamala pour empêcher Kree Darden de mettre à mal le continuum espace-temps. Joué par Iman Vellani, Kamala Khan est apparue pour la première fois dans Miss Marvel. Tandis que Monica Rambeau, qui est jouée par Tijona Paris, a été redécouverte à l'âge adulte dans WandaVision. Voilà un peu pour vous donner quelques petits éclaircissements sur ce drôle d'imbroglio de personnages et tout, dans lequel je crois que seuls les fans de Marvel se retrouvent. Et voilà pour l'info. Donc ça sera à découvrir la brèche. Hein.
Ouais.
Donc ça sera en sortie nationale, donc The Marvel.
Voilà, donc un rendez-vous à ne pas rater. Hein. Et tu disais, il y a pas mal de fans, hein, de spécialistes
des
Marvel.
Absolument, oui, il y a toujours. Hein.
C'est noté, Pascal, pour ce rendez-vous Marvel. On va voyager à travers la galaxie et aussi on va revenir sur Terre puisqu'on va remonter un petit peu le temps et surtout retrouver un personnage qui a, qui a marqué bien évidemment une époque et qui a été très très important dans notre vie, en tout cas, c'est l'abbé Pierre. L'abbé Pierre qui s'est beaucoup investi et qui a fait beaucoup pour ceux qui étaient à la rue, mais pas que. On va le découvrir dans un film qui a été donc réalisé tout récemment, qui sort sur les écrans. Et je crois que c'est pas la première fois qu'on parle du personnage de l'abbé Pierre.
Il y a eu plusieurs films qui ont été faits, notamment le dernier en Hiver 54 de Denis Hamar avec Lambert Wilson, Robert Hirsch et Claudia Cardinal. Mm-hmm. Quelle année ? Ça remonte.
Alors ce film, je dirais, ce film 97.
À 89.
Ah ouais, j'étais un peu
89, court. Hiver 54.
D'accord.
Donc on va parler de l'abbé Pierre, évidemment c'est un biopic, c'est un drame de Frédéric Tellier de 2h18, fait un film français. Alors Frédéric Tellier, il a déjà réalisé des films évidemment, il a réalisé en 2018 Sauver ou Périr avec Pierre Niney et Anaïs de Moustier sur les pompiers.
Ah oui, c'est vrai, c'est le pompier qui se fait brûler.
Oui, il me semble, alors celui-ci je ne l'ai pas vu. Mm-hmm. En 2021, il a réalisé Goliath avec Gilles Lelouch et avec Pierre Niney également. Donc au niveau des acteurs, on va retrouver dans le rôle de l'abbé Pierre, Benjamin Laverne, Emmanuel Berco, Michel Villermoz, dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps.
Exact.
Antoine Laurent, Alain Saxe, Leïa Muse, Malik Amraoui et Chloé Stéphanie. Alors, né dans une famille aisée, alors son vrai nom c'est Henri Grouès. Hein.
Oui, parce que l'abbé Pierre,
c'est son nom de combat. Hein.
Exactement, ouais. Mmh.
Henri Grouès a été à la fois résistant, député, défenseur des sans-abri, révolutionnaire et iconoclaste. Des bancs de l'Assemblée nationale au bidonville de la banlieue parisienne, son engagement auprès des plus faibles lui a valu une renommée internationale. La création des malus et le raz-de-marée de son inoubliable appel de l'hiver 54 ont fait de lui une icône. Et oui, ça a été une pluie d'argent après son appel. Mm-hmm. Les dons ont afflué en masse. Pourtant, chaque jour, il a douté de son action. Ses fragilités, ses souffrances, sa vie intime, à peine crédibles, sont restées inconnues du grand public. Révolté par la misère et les injustices, souvent critiqué, parfois trahi, Henri Grouès a eu 1000 vies et a mené 1000 combats. Il a marqué l'histoire sous le nom qu'il s'était choisi, donc l'abbé Pierre. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a une phrase que j'ai tirée un peu de cette phrase à lui qui est la suivante. Et j'aime beaucoup. Le contraire de la misère, ce n'est pas la richesse. Le contraire de la misère, c'est le partage. Je vous laisse méditer sur cette phrase. Alors... au niveau de la naissance du projet, alors avec les producteurs, Frédéric Tellier réfléchissait à un sujet. Ils ont alors évoqué l'abbé Pierre, un sujet pouvant s'inscrire dans le prolongement des précédents films du réalisateur, comme l'affaire Esquin, c'est vrai, j'ai oublié celui-ci, Sauver au Périr et Goliath. Il se rappelle « Je ne cesse de m'interroger sur le sens du mal et la force de la vie, sur le conditionnement de nos vies. Pourquoi il aura eu de la chance et lui non? Pourquoi elle souffrira et pas elle? La solitude, les injustices sont-elles inchangeables? Répartons le mal qui nous frappe en pleine figure ou le transforme-t-on ? Spontanément, des points m'intéressent chez l'abbé, au-delà évidemment de l'icône qu'il représente, à commencer par son côté révolutionnaire. Et puis aussi, des souvenirs d'enfance ont ressurgi chez moi. L'émotion avec laquelle un membre de ma famille m'avait raconté qu'il avait assisté à une conférence de l'abbé, par exemple. Mais tout ça ne suffit pas à faire un film. Alors, avant d'écrire, je commence par lire tout ce que je trouve, livres, articles, etc. sur l'abbé. Donc, il a été présenté au Festival de Cannes, donc en 2023, hein. Alors, trouver la colonne vertébrale du film a mis beaucoup de temps, au point d'inquiéter les producteurs à qui Frédéric Tellier explique n'avoir rien eu de concret à faire lire pendant presque un an. Et il confie. Car tout ce que je lisais relevait peu ou prou uniquement de l'hagiographie, voire de légendes écrites par l'abbé lui-même ou ses proches. Moi, ce qui intéresse les spectateurs, je crois, c'est comment un être humain a pu accomplir tout ce que l'abbé a accompli. Qu'est-ce qui s'est passé en lui? Où est-ce qu'il a dérapé? Est-ce qu'il s'est senti seul? A-t-il eu peur? A-t-il douté? À quel moment s'est-il cassé la figure? Comment l'a-t-il vécu? S'en est-il remis? Je ne trouvais nulle part les réponses à ces questions. La rencontre avec Laurent Desmarres, secrétaire particulier de l'abbé pendant 15 ans et président de la fondation Abbé Pierre, que les producteurs ont présenté au réalisateur, a été décisive. J'ai passé énormément de temps avec lui. Il m'a raconté des moments, des souvenirs qui ne sont pas dans la littérature officielle et qu'il n'avait, je crois, encore confié à personne. Il m'a ouvert une malle incroyable de souvenirs, d'émotions, de complicité. Il m'a donné à voir et à comprendre l'abbé Pierre intime, son mode de fonctionnement, ses origines. Et je commence à écrire en m'intéressant au parcours familial, aux échecs, aux doutes de l'abbé, se rappelle le metteur en scène. Et il poursuit. Je comprends ce qui a pu le mouvoir, et je vois comment le cinéma va pouvoir trouver toute sa place dans le parcours de ce fils d'une famille aisée qui soudain va renoncer à tout en s'engageant dans les Capucins, un des ordres religieux les plus rigoureux. Presque comme une crise d'adolescence, sans avoir a priori le physique ou la capacité de résistance nécessaire. Les prémices d'un être exceptionnel qui va se faire recaler. Comme s'il s'était trompé de chemin, et qui va se retrouver un peu en errance jusqu'à ce que la guerre, la résistance, puis la rencontre avec Lucie, qui est Emmanuel Bercot dans le film, et Georges, joué par Michel Villermoz, change la donne. La rencontre avec Georges constitue pour lui la rencontre frontale avec la misère. Au moment des premières pages que je noircis, tout cela résonne en moi et un début d'histoire me semble apparaître. L'abbé était un passionné de la vie, de l'autre, du lien social, du lien affectif, un ultra-sensible pathologique. Une vie entière que personne ne connaissait vraiment, faite certes de bonté et de combat, mais aussi d'incroyables rebonds, de paradoxes troublants, de doutes permanents, d'usures, de transgressions. Un petit bonhomme fragile comme de la porcelaine et indestructible à la fois, porté par une mission qu'il savait ne jamais pouvoir aboutir et qui a traversé un siècle. Pour moi, il se dessinait là, tout à la fois, la possibilité d'une épopée cinématographique et celle d'explorer notre histoire sous un angle unique. Un gros travail. On va dire, de scénario. Et oui, pour une personne vraiment aussi complexe qu'était l'abbé Pierre, et c'est vrai que quand j'ai fait le papier sur sa vie, ouais, je me suis rendu compte un petit peu d'où il vient, et un petit peu son cheminement, déjà un personnel, son cheminement intérieur, et puis aussi son combat, ses combats. C'est vrai qu'il a mené quand même 1000 combats. Hein. Donc avec une vie de combat, Frédéric Tallier travaille pour la troisième fois avec le directeur de la photographie, donc Renaud Chassin. À partir de ses recherches, le cinéaste a construit un dossier artistique et a trouvé des exemples pour le guider. Et comme il nous dit, c'est au fil de ces échanges qu'on décide d'utiliser tel ou tel outil, telle ou telle manière de cadrer. Et là, en l'occurrence, notamment l'utilisation des Lens Baby, des optiques photographiques particulières qu'on peut mettre sur une caméra et qui permettent de décentrer la profondeur du champ, le flou autour du personnage central et donc, par ricochet, de donner une proximité avec lui. Voilà un petit peu. Alors il y a le choix aussi, évidemment. Il y avait Lambert Wilson qui avait remarquablement incarné l'abbé Pierre. Là, c'est le choix pour Frédéric Tallier de Benjamin Laverne. Alors, Frédéric Tallier retrouve Benjamin Laverne après l'affaire Esquin, centrée sur la traque de Guy Georges. Pour jouer l'abbé Pierre, le cinéaste cherchait un acteur capable de créer du mimétisme tout en construisant une composition. Et comme il nous dit, est capable de jouer ces nombreux dialogues très en longueur car j'adore perdre les acteurs dans le vertige du texte. Je voulais aussi un acteur qui fasse tous les âges, donc plutôt quelqu'un de jeune qu'on allait ensuite vieillir à l'image. Enfin, un acteur qui ne soit pas une star pour qu'il ne vampirise pas les personnages, et ça, je trouve ça chouette. On a donc organisé plusieurs sessions de casting avec différents comédiens, dont Benjamin. On leur a fait jouer les discours de l'hiver 54 et du Palais des Congrès. Et d'emblée, j'ai été impressionné par la qualité immédiate et la justesse qu'ont proposé Benjamin, et je percevais surtout à travers son énergie combien il avait envie du rôle. Et puis, il le cachait, mais je voyais son trac et j'aime cette preuve d'humilité. À partir de là, il a fallu jongler avec son emploi du temps à la Comédie Française, mais je suis tellement heureux qu'on y soit parvenu. Voilà un petit peu pour vous éclairer sur ce biopic qu'on va avoir à la brèche et que je vous recommande chaudement de venir découvrir.
Donc voilà, là, donc Pierre, un très, à la brèche très bon cette film. Semaine. Oui. Absolument, un très très bon film que vous allez pouvoir découvrir. Alors c'est aussi, comme on le disait Pascal, de remonter un petit peu le temps, parce que je crois que l'acteur, la difficulté de ce film, c'était aussi de pouvoir jouer l'abbé Pierre jeune. Et l'abbé
Pierre, tout au long de son histoire.
Ouais.
Oui,
donc,
absolument.
Il y a eu des prises de tournage qui ont été faites de façon... pas forcément coordonné en fait. Hein. On pouvait enregistrer, d'après ce que j'ai pu lire, enregistrer quelques scènes lorsque c'était l'abbé Pierre jeune. Ouais. On enregistrait quelques scènes le lendemain de l'abbé Pierre vieux.
Et après, ils faisaient le montage.
Et le montage, c'est pas forcément évident pour un acteur de se mettre dans la peau d'un personnage jeune et d'un personnage vieux.
Oui, quoi. Il y a un énorme travail. Il y a un énorme travail, c'est pas un rôle simple, dire l'abbé Pierre. Déjà, pour l'incarner, il faut essayer de se mettre un petit peu dans sa psychologie. J'imagine qu'ils ont bossé dur dessus. Donc c'est, pour moi, à mon avis, ça va être l'aboutissement d'un gros, gros travail, d'analyse et de restitution.
Eh bien, on va faire un petit détour sur la bande-annonce de ce film, l'abbé Pierre, sur les écrans de la brèche cette semaine.
Quand quelqu'un arrive pour la première fois, les seules questions à lui poser sont... As-tu faim ? As-tu sommeil ? Veux-tu te laver ? Rien, on t'attendait.
Mes amis, croyez-moi, je comprends votre désarroi. J'étais à vos côtés, au front, résistant contre l'envahisseur.
Nous nous battons contre l'infamie. Contre la dictature.
Ce que vous faites, c'est très bien. Mais si vous êtes grillé, vous ne sauverez plus personne. Je vais bien vous aider.
Merci, ma sœur.
Vous allez devoir changer d'identité. Abbé Pierre, ça vous va ?
Va pour Abbé Pierre.
J'étais à vos côtés, sur les bancs de l'Assemblée.
Les malheureux souffrent et regardent vers vous. Et vous ne faites rien !
N'est pas fils de grand bourgeois qui va nous faire la leçon !
J'étais à vos côtés, dans la rue et le froid.
Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel on l'avait expulsée.
On m'a appelé la voix des sans-voix. On m'a célébré. On m'a applaudi. On m'a contesté. On m'a trahi.
1 milliard pour le logement d'urgence, c'était encore trop pour vous et vos amis parlementaires.
J'ai douté.
Vous passez trop de temps avec les médias. Les gens y voient de moins en moins la charité, la bienveillance.
J'ai désespéré.
Emmaüs, c'est fini.
C'est à nous. Vous aider maintenant.
J'ai raté tellement de choses. Je me suis souvent trompé. Mais m'a-t-on seulement écouté ?
Vous vous rendez compte ? On a construit tout ça.
Voilà, un film poignant, oui, chargé d'histoire, ouais, et en plus, de témoignages.
Il y a une drôle d'imitation de la voix. De exactement. Il y a presque le même timbre de voix. Ouais. C'est balèze quand même. Alors, ouais. Juste pour revenir un petit peu dessus, deux autres acteurs donc, ont interprété l'abbé Pierre dans deux films. Alors, évidemment, on a évoqué donc, l'abbé Pierre donc, avec Lambert Wilson, Wilson, il est vers 54. Mm-hmm. Mais le premier, c'est avec André Rébaz dans Les Chiffonniers d'Emmaüs de Robert Darren en 1954.
D'accord.
Donc là, déjà, il y a eu ce film, un film qui était déjà sorti un petit peu avant. Hein. Donc voilà, gros film. Je me bats avec ton micro.
Voilà, c'est ça le direct de l'émission. Alors, on va passer un très bon moment, effectivement, avec ce film, l'Abbé Pierre.
Ah oui, oui.
On aura d'autres rendez-vous aussi cette semaine. Là, ça va être un petit peu différent du prochain film que tu vas nous présenter.
Oui, là, ça va être un peu plus grave quand même. Hein.
Ouais.
Nettement plus grave. On va parler du consentement. On va parler d'un écrivain qui a fait polémique, hein. Gabriel Matzneff, l'écrivain.
Ouais.
Voilà. On va parler de sujets un peu graves. Hein. Donc le film, c'est le consentement. Donc c'est un drame biopique, un film franco-belge d'1h58 de Vanessa Philo.
Mm-hmm.
On va retrouver au niveau des acteurs Jean-Paul Rouve, Kim Higelin, qui n'est autre que la petite fille de Jacques. Hein.
D'accord.
Laetitia Casta, Élodie Bouchèze, Jean Chevalier, Lolita Chama, David Clavel et Agathe Drone. On est en Paris en 1985 et Vanessa a 13 ans lorsqu'elle rencontre Gabriel Matzneff, écrivain quinquagénaire de renom. La jeune adolescente devient l'amante et la muse de cet homme célèbre dans le monde culturel et politique. Se perdant dans la relation, elle subit de plus en plus violemment l'emprise destructrice que ce prédateur exerce sur elle. Donc après Gueule d'Ange, les producteurs Carole Lambert et Marc Missonnier et la réalisatrice Vanessa Philo souhaitaient continuer à travailler ensemble. Et c'est Marc qui a appelé cette dernière en lui disant qu'il fallait qu'ils se voient pour parler du livre de Vanessa Springora, alors, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et qui s'appelle Le Consentement. Donc, et ils l'avaient lu et ont eu l'instinct immédiat qu'il résonnerait en moi. Ils en étaient persuadés et ne se sont pas trompés. Et je leur en serai toujours, ça va mieux le micro, infiniment reconnaissante. Parce que le soir même, je le lisais et l'évidence m'a frappé. Ce film est alors devenu notre priorité et depuis 3 ans, il le porte avec courage et détermination. Ma première lecture a été un choc émotionnel et intime, une véritable rencontre lorsque j'ai achevé la lecture de ce livre. J'ai ressenti un très fort sentiment d'impuissance et de colère et tout ce que je ne pouvais supporter dans cette histoire a fait naître des émotions puissantes. Ce sont ces émotions qui m'ont poussé à agir. Et agir pour moi, c'était faire un film. Le film est apparu au fil de la lecture, fait de sensations, d'émotions et de regards. Révélant l'intime dans le langage des corps, il s'est incarné immédiatement. aux images générées par le récit de l'autrice sont venus s'associer des cauchemars. Ils se sont imposés à mon imagination et ne m'ont pas quitté. Si des images me hantent ainsi, elles créent en moi une nécessité d'être mise en scène. Alors évidemment, c'est adapté d'un récit autobiographique, hein, Le Consentement, est adapté du livre du même nom de Vanessa Springora, un nom publié pour la première fois en janvier 2020. Ce récit autobiographique rencontre l'emprise et les abus sexuels dont elle a été victime par le romancier Gabriel Matzneff depuis leur rencontre à ses 13 ans. Fait grand bruit lors de sa sortie, Le Consentement devient l'un des livres les plus vendus et fait l'objet de nombreuses traductions. Surtout, ce témoignage glaçant révèle les pratiques pédophiles d'un écrivain très respecté dans la profession qui réalise non seulement en toute impunité et à une époque où la littérature est placée au-dessus de la morale, mais aussi en les revendiquant, par exemple, dans son livre « Les moins de 16 ans », publié en 1974, ou encore dans l'émission Apostrophe en 1990, présentée par Bernard Pivot, et ça, je m'en souviens de son intervention. C'était assez sévère. Début 2020, Gabriel Matzneff est visé par une enquête pour viol sur mineur de moins de 15 ans. En septembre 2020, l'ancienne journaliste Francesca Aggi raconte avoir elle aussi eu une relation avec lui quand elle avait 15 ans dans les années 70. En août 2022, il est entendu en audition libre par des policiers de l'Office central de répression des violences aux personnes situé à Nanterre. Mais l'affaire Matzneff ne bénéficie d'aucune suite judiciaire. Et oui, notamment parce que les faits dénoncés sont prescrits. Après les accusations de Vanessa Springora, Gabriel Matzneff, aujourd'hui âgé de 87 ans, s'est retiré en Italie. À ce même moment, ses éditeurs renoncent à commercialiser ses œuvres. Un peu tard, les mecs, tu te dis, oulala, là, je crois que ça fait un peu trop de bruit. Donc le travail d'écriture du scénario s'est déroulé de manière extrêmement libre. Mais être fidèle au récit de Vanessa Springora était un vrai choix de la part de Vanessa Philo. La cinéaste le rappelle. J'avais été tellement choqué par le viol public que Vanessa avait subi et par le fait qu'elle était devenue, malgré elle, un objet non consentant de littérature, qu'il était pour moi hors de question de la transformer une nouvelle fois en personnage de fiction. C'est donc son histoire que j'ai déroulée à l'écran et pas une autre. L'adaptation ne porte pas sur un roman mais sur un récit dont l'autrice se bat justement pour ne pas être un personnage fictif. J'ai bien sûr, comme dans toute adaptation d'un livre au cinéma, fictionné des choses, développé, ajouté des éléments personnels, de mes obsessions intimes, de mes propres blessures aussi. Mais j'ai veillé à ne jamais m'écarter de la vérité des personnages. Vanessa a lu plusieurs versions du script. Nous avons eu des échanges intenses qui ont nourri et fait grandir le scénario. Mais alors qui pour Gabriel Matzneff?
Oui, c'est ça. Qui va jouer?
Moi, j'étais surpris et puis pas trop à la fois parce que, franchement, quand il avait coupé ses cheveux, il me dit waouh, ça colle quand même pas mal au personnage.
D'accord.
Jean-Paul Rouve.
Ah oui, très bien, ouais.
Dans la peau de Gabriel Matzneff, nous retrouvons Jean-Paul Rouve. Ce dernier confie avoir été bouleversé par le récit de Vanessa Springora, qu'il avait trouvé fin, intelligent, jamais manichéen et éclairant sur la mécanique d'emprise, selon ses propres termes. Et le comédien ajoute « Je ne connaissais pas Matzneff avant de lire ce texte. Et lorsqu'on m'a appelé pour l'interpréter, j'ai été immédiatement intéressé. C'est un peu comme lorsqu'on vous propose de jouer Richard III. J'ai donc dévoré le scénario de Vanessa Philo, que j'ai trouvé très fidèle à l'esprit du livre. Cela m'a rendu curieux. J'avais envie d'essayer de comprendre qui était cet homme. » Voilà, un rôle pas simple, hein, mine de rien, interprété, incarné. Hein. Donc voilà, Jean-Paul Rouve sera incarné, incarnera donc Gabriel Matzneff.
C'est à la fois, tu le disais, mais c'est étonnant quand même de retrouver un Jean-Paul Rouve que l'on connaît sous l'étiquette.
Plutôt en humoristique.
De comique, d'un acteur qui est plutôt spécialisé dans les gags. De le retrouver dans un film un petit peu, voilà, un film dramatique, hein, finalement, et interdit au moins de 12 ans.
Oui, j'imagine, oui, qu'il y a des scènes pas très jojo.
Oui, c'est ça. Donc, le consentement, histoire, un film inspiré d'une histoire vraie que vous allez pouvoir voir cette semaine à La Brèche.
Absolument.
Et avec une discussion.
Avec une discussion, donc, à la suite de la projection du film. Hein.
Voilà, qui sera proposé le mercredi 8 novembre à 20h15.
Voilà, donc il y a une discussion, ouais, c'est ça, ouais, je confirme. Donc le mercredi 8 novembre, voilà, c'est ça, je cherchais la date. 8 novembre, 20h15, il y aura une discussion donc, après la projection.
C'est noté, Pascal, pour cette séquence cinéma. On va retrouver un autre rendez-vous que tu as choisi dans ta sélection de la semaine à La Brèche. Notre rendez-vous que tu vas nous présenter.
Alors c'est notre rendez-vous là, beaucoup plus léger,
ouais.
Beaucoup plus, on va dire, c'est gastronomique. Voilà, on va parler de cuisine. On va parler du dernier film de Tran Anh Hung. Voilà, ouais. Alors les gens l'ont peut-être un petit peu oublié, Tran Anh Hung. Moi j'aime beaucoup ce réalisateur. Il est franco-vietnamien. Moi j'avais beaucoup été touché par son film en Cyclo qu'il avait sorti en 1995. Moi que j'ai découvert au cinéma, moi j'ai adoré. Je crois que j'ai adoré ce réalisateur quand j'ai vu ce film-là, Cyclo, qui parle de la jeunesse un petit peu de Saigon, quoi. Enfin Saigon, Ho Chi Minh Ville, pardon. En 2016, il a réalisé aussi Éternité avec Audrey Tautou et Bérénice Bejo et Mélanie Laurent et bien d'autres films. On va parler de La Passion de Dodin Bouffant. Donc, c'est un film français de 2h14, un drame historique et une romance. Hein. On va retrouver au niveau des acteurs, deux acteurs qui se connaissent très bien.
C'est là où je confonds, effectivement, c'est Benoît Magimel hein, qui joue le rôle du cuistot. Hein.
Voilà. Alors deux acteurs qui jouent et qui se connaissent très bien d'ailleurs, c'est Juliette Binoche et Benoît Magimel.
Alors moi j'ai juste un conseil.
Oui.
Venez voir le film
après manger.
Après manger.
Ça donne... J'ai été sûr.
Ça donne faim.
Non, parce qu'en plus, c'est dans la préparation, il parle de pot-au-feu et tout.
Non mais attends, c'est
du délire complet. Hein.
C'est extraordinaire.
Oui, oui, oui. Il y a un côté Vatel.
Tu ne vois que de la cuisine. Hein.
Ouais, ouais. Mais c'est vraiment extra.
Ça donne vraiment envie de.
Vraiment extra. De manger justement, le film. Ils ont employé un chef pour le tournage de ce film-là. Mais fort heureusement, il n'y avait pas trop à guider Juliette Binoche et Benoît Magimel. Pourquoi?
Parce qu'ils sont gourmands?
Non, parce qu'ils cuisinent tous les deux.
Ah,
eh bien oui,
ouais.
Oui, mais quand tu ne cuisines pas.
Bah oui,
les gestes, tout ça, ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est plus compliqué pour être crédible.
D'accord.
Ils cuisinent tous les deux.
Benoît Magimel.
Oui, ils sont fans de cuisine.
Fans de cuisine, d'accord.
Oui, oui. On va retrouver aussi Emmanuel Salinger, Patrick Dasumasao, Galatella Bellucci et Yann Amencher. Alors c'est l'histoire d'Eugénie, donc une cuisinière hors pair qui est depuis 20 ans au service du célèbre gastronome Dodin. Au fil du temps, de la pratique de la gastronomie et de l'admiration réciproque, est née une passion amoureuse. De cette union naissent des plats tous plus savoureux et délicats les uns que les autres, qui vont jusqu'à émerveiller les plus grands de ce monde. Pourtant, Eugénie, avide de liberté, n'a jamais voulu se marier avec Dodin. Ce dernier décide alors de faire quelque chose qu'il n'a encore jamais fait. Suspense. Cuisiner pour elle.
D'accord.
C'est mignon.
Ouais, c'est vrai.
Donc, La Passion de Dodin Bouffant est adaptée du roman suisse La vie et la passion de Dodin Bouffant de Marcel Rouff, qui a été publié en 1924. Pour l'occasion, le metteur en scène, donc Tran Anh Hung, revient derrière la caméra 7 ans après son dernier film, le drame donc Éternité. Il confie « Cela fait des années que je cherche un sujet sur la gastronomie qui est un travail et un art. Je suis finalement tombé sur la vie et la passion de Dodin Bouffant, gourmet de Marcel Rouff. Il y avait là des pages magnifiques sur la gastronomie. » Alors le livre de Marcel Rouff commence par la mort brutale d'Eugénie Chataigne après son retour du marché. Et pour le film, Tran Anh Hung a choisi au contraire de la mettre en scène bien vivante aux côtés de Dodin. Et comme il nous dit, j'ai préféré raconter l'histoire qui précède l'ouvrage de Marcel Rouff. Cela me laissait libre d'imaginer la relation qu'Eugénie et Dodin Bouffant avaient pu entretenir. Et c'était également l'occasion d'explorer un thème peu traité au cinéma, la conjugalité. Elle est encore moins traitée quand elle se passe bien, précise le cinéaste. Alors, de 1999 à 2003, Juliette Binoche et Benoît Magimel ont vécu une belle histoire d'amour après s'être rencontrés sur le tournage des Enfants du siècle de Diane Curis. Cette relation a donné naissance à une jeune Anna, vue récemment aux côtés de sa mère avec amour et acharnement. Alors, au niveau des lieux du tournage, évidemment, il fallait un château. C'est important.
C'est important, oui, avec des casseroles en...
Ça a été tourné dans un château en Anjou. Comme ça, on rappelle, Tran Anh Hung, il a dit « J'avais très peu de temps pour la préparation et j'ai eu la chance de trouver ce lieu le deuxième jour de repérage. Il avait une qualité essentielle, une belle circulation entre les pièces qui permettait de créer une activité très vivante dans le château entre la cuisine et la salle à manger. » La chambre de Dodin et la chambre d'Eugénie, etc. Dodin parcourt les couloirs et les escaliers pour rejoindre Eugénie. On le voit également dans de nombreuses scènes y chercher cette femme qui lui échappe. Donc évidemment, il a fallu la présence d'un chef étoilé. Donc à la personne de Pierre Gagnère, qui joue le rôle de consultant.
Ah oui, c'est vrai. Alors j'ai vu un extrait, ouais.
Donc c'est Patrick Rambourg qui m'a mené vers lui. Alors qu'il travaillait sur le scénario comme conseiller historique pour tout ce qui concernait la gastronomie, je lui ai demandé s'il pensait à quelqu'un pour tenir ce rôle. Il m'a parlé de Pierre Gagnère. Et il lui a dit « Allez le voir, m'a-t-il dit. C'est un homme adorable. Pierre et moi, nous sommes vus une première fois dans sa cuisine. Où il m'a invité à venir goûter un merveilleux pot-au-feu. » Franchement, Non, mais franchement, c'est le plat d'enfer par excellence. C'est une de mes spécialités. C'est pour ça que je me dis ouais.
D'accord.
Ouais.
Pot au feu, c'est
donc,
bon.
Il figurait justement sur
c'est
sa carte.
Un bon chabreau après. Hein.
Toujours. Dans la soupe avec le vermicelle. Et nous avons vraiment commencé à travailler au moment de la préparation. Pierre a d'abord fait un tri dans la liste des menus et des plats que Patrick Rambourg et moi avions établis. Ça, c'est bien. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, on oublie. Est arrivé ensuite le moment où on a dû préparer et cuisiner ces plats pour que je voie ce qu'il y avait à filmer. Donc, il nous dit que c'était émouvant de l'observer évoluer derrière ses fourneaux. Il cherche, se trompe parfois, recommence jusqu'à obtenir ce qu'il veut, se remémore Tran Anh Hung. Alors, Pierre Gagnère était trop occupé pour participer à toutes les préparations culinaires que l'on voit dans la passion de Dodin Bouffant. Mais il a réalisé lui-même tous les plats du film pendant la préparation, avant le tournage. Tran Anh Hung se souvient. C'était une étape essentielle pour moi, pour comprendre ces plats et vérifier qu'ils étaient intéressants à filmer. Une fois cela défini, c'est Michel Nave qui a pris le relais pour le travail sur le plateau. Michel Nave a travaillé pendant plus de 40 ans avec Pierre et il venait juste de prendre sa retraite. Sans Michel, Pierre n'aurait jamais accepté le film. Il savait la charge que représentait le travail sur le plateau. Ouais, je te laisse imaginer tous les plats qu'il a fallu préparer à l'avance. Et oui.
Ça devait sentir bon dans les chaumières.
Et donc il nous dit, imaginez que rien que pour filmer le pot-au-feu, Michel Nave a dû manipuler 40 kilos de viande. 40 kilos de viande. La viande crue qu'on prépare, ils mettent à cuire.
Mais ils ont mangé après ?
Oh ben j'imagine qu'il n'y a pas eu de gaspillage. Hein.
Ah ben d'accord.
Oh ben quand même. Oh non, pas ce plat-là. Non. Donc la viande crue qu'on prépare, ils mettent à cuire. Celle qui est déjà cuite, qu'on va découper, dressée dans l'assiette. Tu vois, à chaque fois, il fallait les étapes.
Ah oui.
C'était un travail énorme pour la scène des ortolans qu'il a créé à partir de cailles en réduisant la taille. Et oui, l'ortolan est une espèce protégée quand même. Il s'est retrouvé à cuisiner dans un coin.
De le rappeler. Ouais,
écoute bien, tu vois. Il s'est retrouvé à cuisiner dans un coin en ruine, tout poussiéreux, sur un tas de gravats, derrière le décor, un pied plus bas que l'autre, avec un réchaud à gaz. Et il a dit, il a adoré ça, il trouvait cela vivifiant. Et il dit, dans ma vie, disait-il en riant, je me suis souvent plaint des conditions de travail, mais là, ça dépasse tout. L'équipe technique elle-même n'en revenait pas. Elle non plus n'avait jamais vu ça. Sur les tournages où il est question de gastronomie, elle avait l'habitude de voir des plats fictifs, relookés, pour les besoins des tournages. Là, tout était vrai.
Ah ouais.
Absolument tout. Et je peux te dire qu'avec 40 kilos de viande, ils ont dû se faire un pot-au-feu d'enfer pour toutes les
équipes.
Ça
devait
être super bon.
Ouais.
Alors, il y a une chose intéressante au niveau technique. Hein. Tran Anh Hung a tourné le film avec une seule caméra.
Ah bon ?
Et oui, et comme il nous dit, il y a deux sortes de réalisateurs. Le réalisateur à dispositif et celui qui ne s'y intéresse pas. Mon ambition cinématographique me fait appartenir à la première catégorie. J'aime déterminer des déplacements des personnages et de la caméra qui permettent de créer un flux cinématographique intéressant et que, à l'intérieur de cet agencement, on puisse, dans le même plan, passer un plan très serré à un plan plus large, à un plan moyen, d'un moment en mouvement à un moment immobile et ainsi de suite, et tout cela d'une manière musicale. C'était particulièrement difficile pour les comédiens sous ce film, parfois même crispant. Il fallait corps chant, ils guettent sans cesse le bon moment pour rentrer quand la caméra passe. C'était eux qui décidaient du rythme. J'étais entre leurs mains, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des acteurs aussi merveilleux. Voilà un petit peu pour vous faire
saliver.
Pour vous faire saliver, d'envie, bien sûr. Un film sur la gastronomie, non, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment super chouette. Donc la passion de Dodin Bouffant à découvrir à la brèche donc en sortie nationale cette semaine.
Voilà, avec un Benoît Magimel différent, là aussi, dans un rôle totalement à l'inverse de ce qu'on lui connaît. Hein, parce que souvent, on l'a vu dans des rôles assez sombres. Benoît Magimel, et bien là, on retrouve d'ailleurs
les
fourneaux.
Ouais. Et puis sur un drame.
Oui.
Ça reste quand même un drame. Hein.
Oui, absolument.
Alors, juste pour le parler des fins gourmets, donc, en amont du tournage, donc, Juliette Binoche et Benoît Magimel étaient très pris. Il y avait donc peu de temps pour se préparer. Heureusement, tous deux sont de fins gourmets et cuisinent dans la vie.
Donc, ils connaissent un petit peu.
Mais oui, ils se sont révélés extrêmement expressifs et juste sur le plateau de tournage, comme nous dit le réalisateur. Ils n'avaient pas du tout besoin de longues préparations. Et ça, je veux bien le croire.
Eh bien, on va découvrir ensemble un extrait de la bande-annonce du film La Passion de Dodin Bouffant.
Tu saurais bien ce qu'il y a dedans ?
De lard fumé, des champignons.
Tu vas voir la crème fraîche ?
Le carré de veau, s'il vous plaît.
Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi.
Du persil.
Et aussi du paprika et une soupe de la gelée de groseille. Je suis très
très bon ce qu'on a fait. Mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon, d'une esquisse. Nous sommes à l'automne de notre vie.
Parlez pour vous, je me sens en plein été.
Je vous le demande encore, Jenny. Marions-nous.
Nous passons plus de temps ensemble que bien des époux, à étudier des recettes, à les faire. Ne sommes-nous pas bien ainsi?
Je relève le pari d'émerveiller le prince avec un pot-au-feu de ma composition, avec votre aide.
C'est un peu risqué et audacieux.
Je suis si heureuse et reconnaissante.
Il faut de la culture, de la mémoire pour que le goût se forme. Tu dois te souvenir de ce goût.
Oui, monsieur.
Les potages seront un de caille au coulis de la reine.
Pourquoi vous n'avez jamais à table avec nous?
Je converse déjà avec vous à travers ce que vous mangez.
Eugénie, on ne sait pas de quoi souffre Eugénie.
Je me sens parfaitement bien.
Non, vous n'allez pas bien. Je m'inquiète. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà. Mais vous ne vous êtes jamais eu.
Voilà, on déguste le pot-au-feu ensemble sur la radio. Pascal, oui, oui. Adepte du pot-au-feu.
Carrément, hein. J'en ai fait un il n'y a pas très longtemps.
Très bien. On ira le goûter.
Mais si, pas de souci. C'était bienvenu.
C'est gentil. J'amènerai un bon. Enfin voilà. De quoi.
Il faut un bon pinard avec. Hein. Ah, voilà, enfin, c'est super ça. Pinard, bien sûr.
Voilà, on n'oubliera pas de citer la loi Evin, hein, à consommer bien sûr avec modération.
Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Oui. Avec modération, bien sûr, bien sûr.
Allez, on va.
On va parler de la soirée de la journée, pardon. Du ouais. Dimanche 12 novembre à 14h. Ouais. La semaine dernière, j'ai fait une énorme erreur. Je vous ai présenté les 150 ans de la naissance d'Ali Faure et je vous ai parlé d'Élise Reclus. Non, c'est faux. J'ai confondu les deux personnages. Donc, Ali Faure, juste pour vous donner une petite ordre d'idée, oui, ce sont les 150 ans de sa naissance. Il est né le 4 avril 1873 à Sainte-Foy et il est mort le 30 octobre 1937 à Paris. Et il est enterré donc, à Saint-Antoine de Breuil. Donc il a été médecin, et non pas géographe, médecin, historien de l'art et essayiste français. Et il est l'auteur d'une histoire de l'art, hein, qui est encore un ouvrage de référence. Hein. Mm-hmm. Voilà un petit peu pour vous parler de d'Ali Faure. Hein. Donc il y aura, donc en partenariat donc, avec la mairie de Sainte-Foy-la-Grande, donc il y aura une prestation donc, de l'atelier 104 hein, qui va durer à peu près 20 minutes. Ensuite, il y aura la projection du film donc, Charlot s'amuse. Ça sera une suite de trois courts-métrages hein, qui datent de 1915 à 1917. Hein. Et ensuite, grand connaisseur, donc, il y aura Johan Bernard qui viendra parler aussi de Charlie Chaplin qui est un spécialiste donc, de l'histoire du cinéma. Hein. Et vous pourrez donc échanger avec lui, et ce sera le tout à tarif réduit hein, pour tous. Donc, je répète, ce sera le dimanche 12 novembre à 14h. Hein. Donc voilà. Donc venez nombreux, hein, ça sera, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est riche d'enseignements, riche de contenu, donc faut pas s'en priver. Et à tarif réduit, évidemment.
Merci pour ces précisions, Pascal. C'est noté. Avoir des idées de génie, c'est toujours important dans la vie et ça peut rapporter gros peut-être aussi. Un petit clin d'œil dans cette émission.
Oui, on va parler d'un documentaire, vraiment. Oui, des idées de génie, pour l'interrogation. C'est un documentaire français d'1h33 de Brice Gravel, avec qui vous aurez rendez-vous donc, le samedi 11 novembre à 17h. Il sera là pour parler de son documentaire, Brice Gravel. Donc je répète, le samedi 11 novembre, 17h, donc à la Brèche. Donc, on va partir dans les bagages d'un grand patron. Il a accompagné le patron de Jiffy, Monsieur Philippe Ginesté.
D'accord.
Un petit peu dans sa vie. C'est une immersion, on va dire, dans la vie d'un grand PDG. Hein. Donc, qui a 67 ans. Il est le patron de la chaîne de magasins donc Jiffy et de Tati, qui n'existe plus d'ailleurs, entre parenthèses. Mais au sein du club fermé des grands patrons français, il détonne. Self-made man, incarnation française du rêve américain, ses méthodes de management sont atypiques. Séminaire de motivation organisé dans son chalet luxueux à Megève, tournoi de poker entre employés, voyage à Las Vegas, une culture d'entreprise poussée à l'extrême. Brice Gravel pose sa caméra où d'habitude personne ne rentre à la rencontre de ce grand patron. Au sein du club donc, très fermé donc, des patrons milliardaires, cet autodidacte étonne chez lui. Pas de fondation pour l'art contemporain, de dons au resto du cœur, en présence des caméras ou d'opérations de greenwashing. Il aime sa boîte, il assume, c'est sa vie. Une grande famille de 8000 collaborateurs qui l'invite à skier à Megève, à sa table de poker à Las Vegas ou en croisière en Méditerranée pour le mariage de son fils. Comme un avant-goût de la richesse que les salariés semblent apprécier. Mais ont-ils vraiment le choix ? Est-il concevable que tout le monde n'adhère pas au plaisir ? C'est pourtant la question que pose donc Philippe Ginesté quand il infiltre de faux employés dans les séminaires afin de libérer la parole. Donc c'est bienvenue dans le management hédoniste de Philippe Ginesté qui vous inspirera peut-être fascination, pitié et terreur. Voilà. C'est un drôle de personnage. Moi, j'aime beaucoup le sujet du documentaire. D'ailleurs, j'aime beaucoup les documentaires d'immersion comme ça. Donc voilà, donc ça sera vraiment à découvrir à la brèche. Et venez rencontrer donc Monsieur Brice Gravel, donc qui viendra présenter son travail donc à la brèche. Hein.
Très intéressant. Merci Pascal pour ce rendez-vous aussi. Et vous le savez, l'événement de la semaine, c'est le film que tu évoquais tout à l'heure, l'Abbé Pierre, Une vie de combat. Et effectivement. Il aura eu une vie très très chargée, notre ami Henri Grouès, que tu vas nous présenter, parce que c'est son vrai nom, a priori, l'abbé Pierre.
Exactement, donc l'abbé Pierre, évidemment, c'est son nom, on va dire, c'est son nom de résistance, son nom de guerre, quoi. De son vrai nom, Henri Grouès, il est né le 5 août 1912 à Lyon. Il est mort le 22 janvier 2007. Il a été donc prêtre catholique français à la fin de sa carrière. Puis bien, il a eu quand même bien d'autres casquettes. Il est vicaire du diocèse de Grenoble en 1939, mm-hmm. mobilisé pendant la Seconde Guerre, puis résistant, élu député à la Libération, fondateur du mouvement Emmaüs, organisation non confessionnelle de lutte contre l'exclusion. Bon, ça, ce sont ses grandes lignes. Donc, il est issu d'une famille bourgeoise, aisée et pieuse, de négociants en soie lyonnais. Il est le cinquième de 8 enfants baptisés à Sainte-Chaire, dans le 4e arrondissement de Lyon. Dès l'âge de 6 ans, alors tu vas voir un petit peu, parce que c'est important de regarder un petit peu l'enfance de certains personnages qu'on comprend mieux après le cheminement de leur vie. Donc dès l'âge de 6 ans, il accompagne son père catholique, actif et pieux, qui chaque dimanche matin s'occupe des sans-abri et mendiants, donc du secteur de Lyon, dans un quartier de Lyon.
Bon, déjà, il y avait...
À 12 ans, il accompagne son père à la confrérie séculaire des hospitaliers veilleurs, où le dimanche, les bourgeois se font coiffeurs et barbiers pour les pauvres.
Ah oui.
Tu vois le truc quand même, hein ? Mmh. Ils se font coiffeurs et barbiers pour les pauvres. Ça me fait penser au roi de France quand il vient toucher les écrouelles, tu sais, pour les pauvres. C'était une tradition chez les rois de France. Et je me demande si c'est pas un petit peu issu. Mais voilà, ce sont les hospitaliers veilleurs. J'ai appris ça là, je ne savais pas qu'ils existaient. Hein. Les hospitaliers, oui, ils existent toujours, entre parenthèses. Mais les veilleurs, non, je ne savais pas. Donc, élève des jésuites à l'internat Saint-Joseph, il est scout de France. C'est à cette époque que sa carrière se dessinera progressivement. C'est après un voyage à Rome qu'il souhaite entrer chez les franciscains, mais il doit patienter au vu de son jeune âge à l'époque. Il avait 17 ans. C'est en 1931 qu'il prononce ses vœux et par vœu de pauvreté, il renonce à sa part de patrimoine familial et donne tout ce qu'il possède à des œuvres caritatives. Il est finalement ordonné prêtre le 24 août 1938. Il est alors mobilisé pendant la guerre comme sous-officier dans un régiment du train des équipages. Après un bref passage à l'hôpital à cause d'une santé fragile, oui, il souffre des poumons. C'est d'ailleurs comme ça qu'il va décéder. Il est nommé aumônier de l'hôpital de Lamure dans l'Isère, puis à l'orphelinat de la Côte-Saint-André. C'est alors qu'il recueille des enfants juifs dont les familles ont été arrêtées lors des rafles en zone sud. En novembre 1943, il fait passer en Suisse le plus jeune frère de Charles de Gaulle, ainsi que son épouse. Voilà pourquoi il se rapproche de Charles de Gaulle. Il participe à la création d'un maquis dont il est le chef dans le massif du Vercors et de la Chartreuse, et Dieu sait si ça a chauffé dans ce coin-là. Il aide également les réfractaires au STO. Et c'est dans la clandestinité qu'il adopte le nom d'Abbé Pierre qui lui restera jusqu'à la fin de sa vie. En 1944, il est arrêté par l'armée allemande à Cambo-les-Bains, dans le 64.
Ouais.
Mais il est relâché et passe en Espagne et rejoint via Gibraltar le général de Gaulle à Alger. Il devient alors aumônier de la marine sur le cuirassé Jean Bar à Casablanca, au Maroc. Décoré de la croix d'aumônier, il recevra la croix de guerre avec palme. À la Libération et sur les conseils du général de Gaulle et l'approbation de l'archevêque de Paris, il se présente aux élections législatives et est élu par 3 fois député de la Moselle comme indépendant apparenté au mouvement républicain populaire. Il se désolidarisera du parti politique en 1950 après l'incident sanglant de Brest qui provoque la mort d'un ouvrier. C'est en 1949 qu'il fonde le mouvement Emmaüs, mouvement laïque de lutte contre l'exclusion, et fonde la communauté Emmaüs de Neuilly-Plaisance. Elle a pour but la vente de matériel et objets de récupération pour la construction de logements. Et oui, c'est l'urgence, et c'est des bidonvilles partout autour de Paris, et les gens meurent littéralement de froid dans la rue. Et comme il nous dit, Emmaüs, c'est un peu la brouette, les pelles et pioches avant les bannières. Une espèce de carburant social à la base de récupération d'hommes broyés. Voilà comment il y voyait les choses. Le 29 mars 52, il participe au jeu Quito Double pour alimenter financièrement son combat et gagne, écoute bien, 256 000 francs de l'époque. C'est durant le terrible hiver 54 qu'il lance le 1er février un appel mémorable sur les antennes qui devient célèbre sous le nom « Appel de l'abbé Pierre ». Écoute bien ceci, le lendemain, la presse titre « L'appel de la bonté » qui lui rapporte 500 millions de francs, dont 2 millions donnés par Charlie Chaplin, qui dira « Je ne les donne pas, je les rends. Ils appartiennent aux vagabonds que j'ai été et que j'ai incarné. Les dons affluent de telle manière qu'il faudra des semaines pour simplement les trier et les répartir en France. Des semaines. Avant tout, avec tout cet argent, il fait construire des cités d'urgence, dont celle de Noisy-le-Grand. Oui, ce sera les cités en ferraille, avec des toits un petit peu précaires, mais elles se transformeront plus tard en cités HLM. Le combat de l'abbé aura permis l'écriture et l'adoption d'une loi qui interdit l'expulsion de locataires pendant la période hivernale, dont on parle encore chaque année.
Effectivement.
Ouais. Mmh. Ça vient de l'abbé Pierre, je ne le savais pas.
Moi non plus.
Avec le temps, l'association Emmaüs se concentre sur la gestion des centres d'hébergement et d'accueil Emmaüs Paris et sa région. Il se développe ensuite rapidement dans le monde entier au gré des voyages de l'abbé en France, mais aussi en Amérique latine. En 1963, il est victime d'un naufrage en Argentine. Annoncé mort pendant quelques jours, il prend conscience de la fragilité de son mouvement qui risquerait de disparaître. Il fondera alors Emmaüs International qui verra le jour en 1971. L'abbé Pierre meurt le 22 janvier 2007 à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris, des suites d'une infection du poumon. Il avait 94 ans. Et il affirmait « J'ai passé ma vie à prier Dieu pour mourir jeune », et ajoutant « Vous voyez, c'est raté ». Il faisait aussi régulièrement allusion à sa mort en évoquant son départ en grandes vacances. Et c'est vrai, ça je m'en souviens, il le disait souvent pendant ses vieux jours. Partir en grandes vacances, tellement cet homme s'est tué et usé à la tâche. Voilà.
Un sacré personnage.
Un sacré personnage, une vie bien remplie. Voilà, gloire à toi, Abbé Pierre. Vraiment, ouais. C'était un personnage de l'histoire. C'est un personnage, pour moi, qui est rentré dans l'histoire de France. Tellement il a marqué, on va dire, son époque. Voilà un petit peu, pour vous faire un petit peu de lumière. Là, ce sont vraiment les grandes lignes. Je ne suis pas rentré dans les détails, c'est une vie énorme. Hein. Mais voilà, pour vous brosser en gros, on va dire, l'épaisseur du personnage et vous donner aussi l'envie d'aller voir le film. Hein. Maintenant, vous avez tous les...
Oui, le film de Frédéric Tellier. Donc
absolument, ouais, voilà, l'abbé Pierre, donc, qui sera
le découvrir à la brèche. Plus en détail.
En ouais. Sortie nationale, je pense. Ça sera un gros film. Un gros film, je pense qu'il est déjà attendu. Et ce sera un film qui sera, on va dire, très bien fréquenté. Ça, je ne m'en fais pas là-dessus. Hiver 54 avec Lambert Wilson a très bien marché. Celui-ci marchera très bien.
Eh bien, c'est noté. Alors, bien sûr, on va arriver à la fin de l'émission. On a un petit peu de temps devant nous, Pascal. Oui. Ça sera aussi l'occasion d'évoquer d'autres sorties qui vont arriver. On en a déjà parlé dans l'émission. Ah. On l'attend avec impatience, celui-là. tu vas travailler tes fiches.
Là, tu parlais de Napoléon.
Absolument.
Ridley Scott,
le 22 novembre.
Alors, il sortira le 22 novembre. Évidemment, et oui, non, là je vous prépare par contre un papier sur Napoléon, mais voilà, comme je l'avais dit plusieurs fois, on va pas parler de politique, on va pas parler de révolution française, on va pas parler de tout ça, on va pas parler de stratégie militaire, parce que je pense que tout le monde connaît un petit peu le sujet. Non, on va parler de l'enfance de Napoléon. Mmh. Parce que je trouve que c'est quand même primordial de comprendre un petit peu, voilà, un petit peu comment Henri Grouès, hein, comment est-il devenu, tu as vu son enfance, comment il a été forgé par son père, comment il a eu, tu vois, ce cheminement grâce justement à ce qu'il a appris pendant son enfance, ce qu'il a vraiment imprégné. Et bien là, je vais vous faire le même papier, mais là, vraiment l'enfance de Napoléon et comment il est devenu, comment il est arrivé au sein de l'armée, comment on est arrivé en arrivée générale dans le tumulte de la Révolution. Et voilà, donc je vous prépare un petit papier là-dessus.
On est impatient de le découvrir. Et puis, on le disait, on n'avait pas trop d'infos au début, là, et de plus en plus, on voit des...
Oui.
Des sorties de bandes-annonces qui sont un petit peu différentes.
Ouais,
ils donnent envie d'aller voir ce film.
Après, il reste assez discret, Ridley Scott. Hein. S'il avait lancé un ou deux films-annonces. Hein. Ouais. Voilà, dans laquelle on reconnaît tout un tas de choses. Hein. On reconnaît la bataille des pyramides. On reconnaît la bataille d'Austerlitz. Quand il fait tirer, t'as vu, à un moment, tu vois, il fait tirer dans la glace. Bon, là, je crois que Ridley Scott est tombé un petit peu dans la légende. C'est quand il fait tirer dans le lac.
Ah oui.
Et que les hommes tombent sous la glace.
Voilà.
Bon, mais ça, c'est un épisode qui se serait passé à Austerlitz. Ça n'est pas attesté. Moi, je ne l'ai pas vu dans les livres d'histoire. Ça tient peut-être un petit peu de la romance ou de la légende, on va dire. Mais voilà, on reconnaît la bataille d'Austerlitz, on reconnaît la charge de la bataille d'Eylau. Bataille d'Eylau, voilà, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, bon, voilà, c'était la plus grosse charge de cavalerie qui ait jamais existé à cette époque-là. C'est quand même 13 000 cavaliers qui chargent. Je ne sais pas si tu te rends compte un petit peu.
C'est énorme.
Mais imagine dans un champ quand tu as 10 chevaux qui galopent. Tu vois un petit peu le vrombissement. Et bien là, tu imagines 13 000 cavaliers qui galopent dans la neige. Voilà, c'est dans le film de Yves Angelo, le colonel Chabert. Le colonel Chabert l'évoque, cette charge. Lui, était à la bataille d'Eylau. Il évoque cette charge. Il dit que la terre tremblait littéralement. Oui, elle a tremblé, effectivement. Donc voilà, il y a un petit peu tous ces petits passages. Alors, je ne sais pas comment il va arriver à brosser tout ça aussi vite. Hein, mais voilà, on va voir, c'est intéressant. On va voir sous quel angle il va attaquer ce drôle de personnage de l'histoire qui était Napoléon Bonaparte. Hein. Mais un sujet super intéressant. Hein.
Ouais, on a hâte de le découvrir, en tout cas. À la brèche, et parmi les films qui vont arriver très prochainement, c'est un film de Thomas Bédeguin qui va sortir sur les écrans avec un Gilles Lelouch qui va revenir sur les écrans dans un film très angoissant qui s'appelle « Soudain seul ». Je pense que vous allez le programmer, c'est évident. On commence à en parler tranquillement actuellement. Il s'agit d'un couple. Je crois que c'est Mélanie Thierry et Gilles Lelouch qui se retrouvent sur un bateau et qui se retrouvent sur une île. Et le bateau s'en va.
Ah, ils sont seuls.
Ils sont pris au piège.
Ils sont pris au piège de l'île.
Ouais.
Ah ouais.
Que va-t-il se passer? Comment vont-ils s'en sortir? Il y a un énorme suspense. Le teasing est très très intéressant.
D'accord.
J'ai pu voir quelques extraits actuellement. Mmh. Ça commence à être distillé doucement.
Alors Robinson Crusoe.
Ouais, soudain seul.
Ou alors dans l'autre film, comment il s'appelle, Seul au
monde. Seul au monde.
Ah oui, il était bon celui-là.
Avec un excellent acteur, évidemment, qui se retrouve perdu sur une île.
Tom Hanks,
voilà, exactement.
C'était
avec son ballon
qui
s'appelait Wilson.
Ouais. Avec la barbe et tous les cheveux longs. Oui.
Eh bien, beaucoup de films nous attendent pour.
Non, mais là, oui, on va arriver à l'hiver et tout. Mais après, je présenterai un peu plus tard les Disney qui arrivent là.
Absolument. Et puis on a aussi la suite des Trois Mousquetaires qui.
Exact. Oui, début décembre aussi. Donc ça sera également
l'événement.
Le chapitre numéro 2, Milady. Il s'appellera comme ça.
Alors, on sera là aussi pour le découvrir ensemble, en tout cas. Pascal, merci, merci beaucoup pour nous avoir invités. Dans les murs de la brèche.
Dans les murs de la brèche, bien sûr. Et merci à toi, Christophe.
Voilà, on va bien sûr, comme tu l'as dit, profiter du mauvais temps pour aller au cinéma.
Je vous rassure tout de suite, le mauvais temps continue, il va pleuvoir.
Donc c'est un temps
idéal. Et ça va être
idéal
super pour aller au cinéma, non?
Exactement, se changer les idées. Vous avez les séances de 18h, vous avez les séances d'un petit peu plus tard, en semaine, le week-end, donc n'hésitez pas.
Exactement.
Pascal, je laisse le mot de la fin, évidemment.
Mais bien évidemment, donc prenez soin des vôtres. Regardez-moi la télé, surtout en ce moment. Et venez nous voir, écoutez Radio Grand Air et venez nous voir au ciné. Venez voir l'Abbé Pierre. Venez découvrir ce film-là et puis bien d'autres films, d'ailleurs, entre parenthèses. Là, je vous souhaite à tous et à tous une excellente semaine cinématographique. Et je vous dis à très bientôt.
À la semaine prochaine, Pascal.